ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Olivier Carrero, vous êtes recommençant dans la foi. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de vos convictions et, j'allais dire, de votre parcours sinueux, serpentin, comme vous dites. Vous avez été professeur de philosophie chinoise pendant 15 ans. Vous avez été aussi éditeur d'une collection du Rouergue.
C'est ça.
Et vous avez un projet de reconvertir votre vie selon là où l'esprit va vous amener. Mais vous n'avez pas toujours été croyant. Vous êtes même d'ailleurs issu d'un milieu, on va dire, indifférent.
Pas tout à fait. Mes parents, bonsoir d'abord Benoît, mes parents n'étaient pas croyants, c'est vrai, mais comme on l'était dans le Béarn à l'époque... Plongé sociologiquement tout de même dans cette foi. Mon père était enfant de cœur, par exemple, mais était incapable de dire quel latin on lui faisait annoncer.
Et maintenant, vous êtes bedeau, ou en tout cas, sinon sacristain, au moins enfant de cœur ou servant de messe à la paroisse, à la fois de
Bagatelle, donc à Saint-Esprit, mais surtout à Purpan, donc à la paroisse de Sainte-Marguerite, où depuis un an, effectivement, je sers la messe avec un grand bonheur. J'ai retrouvé peut-être, vous avez raison, j'ai remis mes pas dans ceux de mon père.
Et donc, vous accompagniez votre père quand il allait à la messe ?
Non, il l'était enfant. Il l'était quand il était enfant.
D'accord.
Voilà, donc je leur sais gré, rétrospectivement, eu égard à ce parcours un peu sinueux, comme vous dites, de m'avoir baptisé. Enfant, de m'avoir permis la communion, etc. Et oui, j'ai plaisir, quelques 30 ans après, recommençant dans la foi depuis 3 ans, d'avoir retrouvé, d'avoir su que j'avais été baptisé tout ce temps-là, et d'avoir retrouvé, à la faveur d'ailleurs d'une expérience un peu mystique que j'ai eue il y a 2-3 ans, d'avoir retrouvé exactement la foi d'enfance que j'avais, qui était vraiment fervente à l'époque. J'étais pieux, vraiment, à 10-12 ans. Je me vois encore exalté devant un Christ un peu sulpicien tiré d'un catéchisme du diocèse de Bayonne. J'avais cette émotion forte que j'ai perdue ensuite, comme c'est souvent fréquent à la faveur de l'adolescence. Mais voilà, il y a 2-3 ans, dans l'enthousiasme peut-être d'une fête un peu... comment dire, ou avec un tabac un peu fort peut-être, j'ai retrouvé vraiment, j'ai cru sentir en moi exactement l'endroit où j'avais laissé ma foi reposer.
Ce qui était enfoui, ce qui était souterrain, oui. Et qui, tout d'un coup, un peu comme une nappe phréatique, réapparaît à la surface.
Exactement, comme si cette métaphore est intéressante, naturaliste, comme si la foi, c'était pas exactement qu'on recommence dans la foi suit son cours, simplement de façon parfois souterraine, et à d'autres moments, selon les accidents du terrain, on se rapproche d'elle, ou on s'en éloigne, l'essentiel est de marcher en quelque sorte, mais elle suit son cours, sous nous en quelque sorte.
Mais je crois en quoi ? Une transcendance, un appel de vivre heureux ?
Oui, très exactement. Une vie pleine, une plénitude de vie, je dirais. Une vie, non pas une vie étriquée ou comme ça, entamée, mais une vie dans sa plénitude. Et plus ça va, plus j'ai lu, plus j'ai étudié, plus j'ai réfléchi, plus j'intègre en fait ces expériences. Je les ai décantées, mais je les intègre surtout. J'ai le sentiment de ne devoir renoncer à rien. De pouvoir tout récupérer dans une spirale supérieure de ses expériences antérieures.
Et nous parlons dans ce temps où l'esprit souffle, dans ces temps de Pentecôte.
C'est vrai.
Alors, cet esprit qui nous anime, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Alors, la philosophie chinoise, pendant 15 ans, c'est le yin et le yang ? C'est quoi par rapport justement au christianisme ? C'est une autre culture ?
C'est vrai. J'ai toujours été intéressé par les cultures du monde. J'ai fait des études de philosophie en Sorbonne, mais aussi d'anthropologie au Collège de France. Donc j'ai toujours eu ce goût, et je lis encore beaucoup d'ethnologie, toujours eu ce goût des cultures diverses.
Qu'est-ce que l'homme ? Et cette tension qui nous habite, la sexualité, l'homme et la femme, la recherche... d'une sagesse peut-être.
Dans la philosophie chinoise, vous voulez dire? Oui, il y avait cette dimension-là. J'étais plutôt intéressé par le taoïsme, moi, dans la philosophie chinoise, c'est-à-dire précisément la dimension la plus déliée, la plus libre, la moins corsetée socialement, vous voyez, dans le monde chinois. Et probablement, il y a quelque chose entre le taoïsme, sa liberté d'évolution, et puis le Saint-Esprit, c'est-à-dire le vent qui souffle là où il veut. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça que secrètement je cherchais.
Mais ce n'était pas la foi chrétienne, ce n'était pas les dogmes de l'Église catholique à ce moment-là.
Non, mais tout du long de mes enseignements, par exemple à l'Université Jean Jaurès, je me suis rendu compte rétrospectivement que je n'avais cessé de dresser un comparatif entre, disons, la sagesse chinoise, confucéenne, et puis la foi d'Évangile. J'avais toujours besoin, en quelque sorte, d'articuler l'un à l'autre, de le traduire mutuellement.
De redevenir chrétien, d'une certaine manière.
Voilà, secrètement, en faisant de la philosophie chinoise. Tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Parfois en passant par Pékin.
Mais vous aviez perdu votre foi, pas comme on perd des clés.
Exactement.
Mais peut-être, exactement, comme on parle d'expérience, d'une nature, vous me disiez, étourdie.
Oui, je perds souvent mes clés dans la vraie vie. Mais je ne pense pas que la foi, on la perde ou on la conquiert comme un objet. Non, elle est plutôt atmosphérique, elle est plutôt l'élément dans lequel on baigne, en quelque sorte, qui nous donne à respirer à certains moments, qui devient irrespirable à d'autres. L'essentiel étant de chercher son souffle. Et oui, j'ai le sentiment maintenant, en tout cas, de n'avoir jamais été à proprement parler athée.
Alors cette tension entre le yin, qui est le secret, et ce yang, qui est solaire, c'est aussi une tension qui vous habitait et qui mûrissait votre réflexion. C'est la rationalité? Non. C'est l'émotion?
Alors là, à l'instant, ce que vous me dites, je recoue avec ce que je disais sur cette expérience mystique là, de tout à l'heure, retrouvant la foi de mon enfance. Ce que j'ai retrouvé à la faveur de cette expérience, c'est le sentiment qu'il y avait deux pôles en moi. Un pôle de lumière, de chaleur, Dieu le Père, et un pôle de lumière beaucoup plus lunaire, froide, le Christ. Voilà, c'est ça que j'avais dans mon enfance développé. Et je crois donc qu'il y a en Dieu un yin et un yang. Le Père serait du côté du yang, le solaire, l'actif, le prodigue, celui qui dispense généreusement son énergie, et puis celui qui la reçoit, qui est dans le reflet, comme la lune. Comme la lune est éclairée indirectement par le soleil et ne fait que renvoyer vers le soleil. Donc c'est une expérience, ça, le yin et le yang, finalement, que je vis encore aujourd'hui dans ma foi catholique recommençante.
Et vous lisiez Saint Jean, vous lisiez Saint Paul, vous lisiez un peu la Bible, ou bien c'était mis avec d'autres livres de philosophie ou de sagesse sans révélation?
Non, j'ai toujours beaucoup lu les évangiles. Je les ai jamais, j'ai jamais cessé de les lire, je crois. Simplement, je crois que pendant ces longues années d'éclipse de ma foi, où elle était moins omniprésente, je parlais de Dieu, à propos de Dieu. Je pensais sur Dieu, en quelque sorte.
Sans parler à lui.
Exactement. Ce qui est aujourd'hui le cas de la prière, c'est non pas parler de Dieu, mais, ou sur Dieu, en surplomb, mais parler à un ami intime, un amour, un amoureux.
Il y a un débat chez les littéraires. Vous avez été éditeur pour s'interroger. Est-ce que la Bible, c'est la révélation de Dieu, justement, ou bien est-ce que c'est une expression, entre autres à travers les psaumes, de ceux qui crient leur souffrance à Dieu ou qui lui demandent au secours ou qui rendent grâce devant la merveille de la création? Parole de Dieu, parole à Dieu, c'est pour beaucoup une interrogation profonde.
Vous le dites très bien, mais je pense qu'il ne faut pas choisir. Il faut prendre les deux dimensions. Je crois que la Bible, c'est ça. Tous les livres, c'est à la fois la parole adressée à Dieu et la parole que Dieu nous adresse. Ou même, j'y suis très sensible, à la parole qu'est Dieu. Dieu est Logos. Il est lui-même langage.
Le Verbe s'est fait chair.
Voilà.
Il a habité parmi nous. Vous nous avez apporté un beau cadeau. D'abord, la Marseillaise noire, une musique qui nous prend aux tripes parce qu'on parle de ces Noirs qui sont lynchés par le Ku Klux Klan. Et puis, la photo qui va servir de support à notre dialogue d'aujourd'hui, c'est la Vierge noire.
Alors c'est un tableau d'un peintre contemporain bordelais, Gérard Servan-Hermès, et c'est la mère et l'enfant.
Pourquoi une Vierge noire alors que en Afrique on cherche des vierges qui sont blanches et un Jésus qui n'est pas du tout bronzé? Donc il y a une sorte de chiasme pour les philosophes qu'on cherche un autre, un ailleurs pour donner du sens à notre propre vie.
C'est vrai, j'ai peu médité cela. C'est simplement le tableau qui se trouvait dans la chambre de ma mère, hein, que j'ai récupéré à sa mort, et qui a toujours trôné une sorte d'icône noire, effectivement. Je crois que ma mère y était sensible pour la qualité esthétique, hein, du tableau, essentiellement.
Du peintre bordelais Gérard Servan-Hermès, en 1988.
Tout à fait.
Nous allons la contempler, mais en même temps, nous savons que c'est cette maman qui pleure son enfant ou ses enfants qui sont lynchés dans la période du Ku Klux Klan.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Olivier Carrera, vous êtes recommençant dans la foi et recommençant la recherche du sens de votre vie et peut-être d'une nouvelle vie. Vous avez été éditeur, professeur de philosophie chinoise, et vous nous apportez ce poème, cette méditation, cette souffrance dans le conflit du racisme.
Oui, une chanson mythique, iconique de Billie Holiday, qu'elle a toujours eu à son tour de chant, qui est parfois appelée effectivement la Marseillaise noire, parce qu'elle a une grande importance dans la lutte des droits civiques. C'est une chanson qui dit, je en traduis quelques couplets, « Scène pastorale du sud chevaleresque, les yeux révulsés et la bouche déformée, le parfum des magnolias doux et printanier, puis soudain l'odeur de la chair qui brûle. Voici un fruit que les corbeaux picorent, que la pluie fait pousser, que le vent pourlèche, que le soleil fait pourrir, que l'arbre fait tomber. Voici une bien étrange et amère récolte. » On pourrait dire bien étrange et amère manne. Voilà, il s'agit d'une scène tout à fait bucolique. On se promène dans la nature et tout d'un coup, on voit des fruits étranges pendre aux arbres. Ce sont les corps lynchés des Noirs dans les années 30. C'est une chanson de politique, hein, de protestation politique qui me touche depuis l'adolescence à cause de cette voix éraillée, rauque. C'est presque un cri à la fin, la chanson. Mais j'y vois aujourd'hui, j'en fais une lecture plus religieuse aujourd'hui. D'abord, je rappelle qu'on tuait les Noirs en brûlant des croix, c'est-à-dire probablement pour des motifs religieux. Donc il y a un trouble là extraordinaire de blancs qui se croient autorisés par la Bible à tuer leur prochain dans ces conditions expéditives. Je ne peux pas ne pas songer aussi aujourd'hui au fait que, eh bien, on dit souvent de notre Seigneur qu'il est un supplicié accroché, pendu aux croix, au bois de la croix. Donc on voit dans ces jeunes corps noirs aussi, sans doute une figure, enfin pour moi, christique aujourd'hui. Et puis j'en fais une lecture encore un peu différente aujourd'hui, puisque je suis revenu à la fois aussi à la faveur de la prédication du pape François, de Laudato aussi. Je suis très sensible à la dimension écologique. Dans une chanson comme celle-là, il ne faut pas oublier qu'il y a une protestation aussi sur ces étranges fruits, sur ces fruits étranges. Un arbre n'est pas fait pour avoir ce genre de fruits attachés à ses branches. Voilà. Je veux dire que l'outrage fait aux hommes, c'est aussi un outrage fait aux arbres. Et aujourd'hui, on peut entendre dans cette chanson aussi cette dimension de voilà, comment on peut dénaturer un arbre, faire peur aux arbres en y pendant des hommes. Et ça n'est pas naturel.
Comme la volonté de toute puissance, l'hubris, comme on dit, par rapport à la technologie ou par rapport à notre désir de toujours consommer plus, peut entraîner des effets secondaires extrêmement dommageables. Nous nous sommes rencontrés, Olivier, lors du 60 ans du CCFD Terre Solidaire.
C'est vrai.
Et vous nous évoquez l'importance de la poésie, de la musique et pas seulement de la rationalité. Mais c'est un livre aussi qui vous a ramené à la foi de votre enfance. C'est celui d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, qui pourtant est un croyant qui a perdu la foi et qui s'interroge sur les bondieuseries, sur les charismatiques, sur tout ce qu'il y a d'irrationnel dans les croyances, dans certaines croyances du christianisme. Et pourtant, il évoque ce geste ô combien symbolique du lavement des pieds qui l'a profondément ému. Le service des autres, quand vous servez la messe.
Oui, c'est vrai. C'est le lavement des pieds reste pour moi le cœur vibrant de la liturgie chrétienne. Pas suffisamment, si je puis dire, exploité, je trouve. Mais c'est le moment le plus intense pour moi dans une année liturgique. C'est le moment où on se lave les pieds. Car je dirais aujourd'hui de Jésus-Christ qu'il est mon héros, si on peut dire. Mais c'est aussi un anti-héros, c'est-à-dire celui qui lave les pieds de son prochain.
Ça peut être aussi laver la vaisselle, vider les cendriers ou bien sortir nos poubelles. Nous sommes en présence aussi de cette croyance que tout est lié.
Que le quotidien lui-même est liturgique, que le quotidien lui-même est poétique. Voilà, et je trouve que la foi, c'est, replonger dans cette nappe phréatique profonde dont vous parliez, qui est l'enchantement de la vie quotidienne avec les gestes les plus simples, les plus élémentaires. Caresser un arbre, laver les pieds, servir, lire, aimer.
On retrouve la théologie de Thérèse de Lisieux, théologie aussi de François d'Assise.
À laquelle j'ai été sensible, effectivement. Dans mes 20 ans très pieux aussi, c'était saint François d'Assise, mais aussi un grand théologien, Hans-Urs von Balthasar, que j'ai lu comme un fou, des milliers et des milliers de pages, et qui insistait dans un livre qui est probablement celui que je préfère au monde, un livre qui s'appelle « Le cœur du monde », sur le fait que Jésus est le cœur battant de ce monde. C'est celui qui fait battre les choses, hein, qui leur donne leur scansion, le systole et diastole, le rythme de sang, hein, comme ça, qui énerve le monde. Voilà, il a un livre vraiment magnifique là-dessus. Et je suis sensible à cette dimension-là, cosmique.
Alors, on n'a pas perdu ses clés. Mais parfois, on a tellement de clés qu'on ne sait plus laquelle choisir pour ouvrir la porte qui est devant nous, alors que peut-être la porte n'est pas fermée. et que la miséricorde de Dieu nous ouvre ses bras où que nous soyons et quelle que soit notre situation.
Oui, j'aime assez cette idée, je n'y avais pas songé en ces termes, mais peut-être quand on se croit éloigné de la foi, on croit que la porte est fermée. Et l'idée que je retiendrai là, de notre échange, c'est que peut-être la porte est toujours ouverte en fait, qu'on le sache ou pas.
Et on n'a plus froid, mais on a le cœur en joie. Vous nous avez apporté aussi, bientôt il faudra conclure, mais une poésie, un poème de Baltimore. C'est pas d'aujourd'hui.
Non, c'est un texte anonyme en fait qu'on a retrouvé, semble-t-il, dans une église de Baltimore en 1692 et qu'aimait aussi ma mère. Je vous en lis quelques versets.
Bien
peut-être.
Sûr.
Au milieu. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule comme il doit. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez, dans le désarroi de la vie bruyante, la paix dans votre âme.
Et la paix avec les autres, car c'est toujours dans l'échange avec son prochain que nous pouvons nous trouver nous-mêmes. Dans ce dialogue, au-delà des convictions, au-delà des dogmes ou des croyances, dans ce royaume de Dieu que nous avons à construire dès aujourd'hui.
Un mot sur le royaume peut-être?
Oui.
J'ai oublié de répondre à votre question sur Carrère. Un Carrère est sensible à un Carrère. Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre sur les premiers chrétiens. Et l'usage humoristique, si je puis dire, que j'en ai fait, c'est que là où il exprime pourquoi il a quitté la foi, c'est en le lisant, en retrouvant cette dimension des premiers chrétiens, que j'ai eu envie d'y revenir pour ma part. Il y a eu un chiasme comme ça, un chassé croisé. Voilà, j'aime beaucoup cette notion de royaume en fait. Que le monde lui-même soit un royaume en promesse ou en gestation.
Avec aussi sans cesse la relecture des traditions à travers la Bible. Nous avions évoqué hors antenne un livre de Jean-Pierre Albert, là, à travers lui qui est agnostique, mais qui s'interroge beaucoup aux aromates dans la Bible.
Mmh.
Hein, l'odeur des parfums que l'on retrouve aussi dans certaines églises et qui peut-être... dans certains temples, on fait fuir des personnes parce qu'il n'y avait pas suffisamment de sensibilité. Mais qui sait encore la différence entre cette croix où il n'y a pas le supplicié, qui est le symbole des protestants qui voulaient un peu plus de pureté, un peu plus de simplicité, sans les statues des saints, sans les dentelles, ou tout ce qui est la fioriture, mais le Concile de Trente a aussi rappelé, comme le Concile Vatican II, qu'il y a peut-être un sens à tout ce qui supporte notre foi à travers ces signes extérieurs. Le christianisme est une religion incarnée.
Oui, j'aurai toujours une foi qui passera par la vie sensible, ça c'est sûr. Par la vie sensuelle même, en l'occurrence, je pense que ça n'est pas du tout incompatible. Et oui, je suis sensible à ce que...
Et je vous avais demandé de choisir un psaume, mais c'est un autre débat. Moi, je sais que j'aime bien le psaume premier, comme un arbre planté près d'un ruisseau qui tire sa saveur grâce à ses racines. Donc, on voit à travers le parcours, les quatre stations de votre vie, comment il y a sans cesse cette recherche, recommençant.
Oui, c'est ça, être chercheur de Dieu.
Mais si on le cherche, c'est sans doute qu'on l'a déjà trouvé.
C'est ce que disait Blaise Pascal, oui.
Alors, merci Olivier, et puis j'allais dire bonne route, bon vent.
Merci beaucoup à vous, Benoît.
Dans le souffle de cet esprit de Pentecôte qui nous anime aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.